France Inter, franceinter.com.
Amis ours blancs, automobilistes et auditeurs de France Inter, soyez donc les bienvenus dans ce magazine de nature et d'environnement. CO2 mon amour, jusqu'à 15h avec Antoine Viossa et Stéphanie Coulon, aujourd'hui à la technique. Et assisté de notre ami Jean-Christophe Pinaza, Céline Bézi, c'est Anne Wenfeld qui réalise cette émission. Alors justement, avec Jean-Christophe Pinaza qui est avec nous dans ce studio, parce que c'est un homme que j'aime beaucoup, un ami qui vit en Haute-Savoie et de temps en temps nous avons quelques facéties comme ça à quatre mains, on s'est dit qu'une petite dernière avant la fin de l'année ne nous ferait pas de mal. Pour la nature, l'environnement et pour le reste, eh bien c'est l'heure des balis. Non, pardon, c'est l'heure des bilans. C'est l'heure des bilans. Voilà. Alors donc le bilan, c'est 3,6 milliards d'années après l'apparition de la vie sur Terre. Nous avons donc l'Homo sapiens, tant mieux, hein, c'est nous. Cet animal que nous voyons tous les matins quand nous nous regardons dans la glace de la salle de bain. Et c'est un petit chef-d'œuvre hein, de l'évolution avec son pouce opposable et son gros cerveau. Qu'est-ce qu'on est vachement bien. Bon, l'homme donc, c'est une espèce qui a plutôt bien réussi dans la vie, avec à son palmarès les pyramides d'Égypte, l'écriture, la Vénus de Milo, le boléro de Ravel. L'homme qui est capable de compassion et qui a inventé aussi les sciences, les arts et les techniques. Bon, avec hélas quelques petits dommages collatéraux, on va dire faune, flore, climat, écosystème. Et oui, parce que depuis qu'elle est aux commandes de la planète, voyez-vous, l'espèce humaine n'a pas fait dans la dentelle, surtout depuis, on va dire, 2 siècles. On n'est pas loin, on le sait, de 7 milliards d'individus et nos modèles dominants de conso à tout va, tenant lieu de refuge idéologique à la majorité de l'espèce, eh ben on le sait aujourd'hui, une seule planète n'y suffira pas. Et puis notre super prédateur des temps modernes a aussi une fâcheuse tendance à s'auto-exterminer. On l'a vu, ouais, avec à son tableau de chasse toute une série de témoins gênants de la bêtise humaine. On a eu quoi ? Henri IV, Abraham Lincoln, le Mahatma Gandhi, Anna Politkovskaya, Benazir Bhutto. Tout ça sans compter les anonymes. Les victimes de la connerie ordinaire, du genre ce jeune garçon de 20 ans qui, dimanche dernier, à Andelot, nous sommes en Haute-Marne, a reçu en pleine tête une balle qui a été tirée par un chasseur de renards. Et oui, ce garçon, il avait 20 ans. Il était amoureux, il était avec sa copine, il était en lisière de forêt, moment de tendresse, d'intimité. Et comme trop souvent, le chasseur tira sans prendre le reste du monde en considération. Il n'y avait plus que lui et sa proie. Et comme trop souvent, la balle n'atteignit pas sa cible et continua sa course folle. Et ce jeune garçon a été foudroyé en pleine tête. 20 ans et amoureux sous les yeux de sa copine, 20 ans et mort. Alors accident, bien sûr, balle perdue, ricochet, conclura le procureur de la République, fait divers, etc. On nous dit que cet homme, donc celui qui a tiré, on l'a laissé rentrer chez lui pour les fêtes de Noël. On espère simplement qu'il a fait un grand feu, qu'il a brûlé son fusil et qu'il s'est juré de ne plus jamais toucher à une arme de sa vie. Parce que nous, on aurait bien aimé pouvoir se promener aussi en forêt, observer la nature le dimanche, sans être obligé d'enfiler forcément un gilet pare-balles. Alors en attendant la trêve des chasseurs, et parce que les balles tuent encore plus sûrement que la cigarette, eh ben, en 2008, on votera pour l'interdiction de tuer dans les lieux publics. Et oui, ça aussi, c'est de l'actu, mais on n'en parle pas forcément toujours dans les journaux, ça relève simplement des faits divers. Alors au menu. On va commencer par un petit peu de chaleur. Nous allons partir dans le très beau département du Lot. Tenez, avec cette voix.
Je crois que ce qui m'ennuierait le plus, c'est de ne pas pouvoir être libre de mon temps. Je pense que ça, pour moi, c'est un destin que je n'aurais pas pu envisager, d'être obligé de travailler à heure fixe tous les jours. J'ai toujours eu besoin de bouger et de choisir.
Alors, il n'est plus avec nous, mais il chante toujours grâce au CD, c'est Nino Ferrer, reportage que j'avais effectué avec lui dans le Lot en 1992. Et puis il nous faut aussi un peu de roborative, je trouve. Hein. Peut-être que vous quittez la table, mais quand même, on en a besoin. Écoutez cet homme.
Si la soupe a une telle importance dans l'alimentation des anciens temps, c'est parce qu'il n'y a que la soupe. Et la soupe, c'est une nourriture paysanne. On fait la soupe dans les pays où il y a des paysans.
Et l'homme qui s'exprime est un historien, moi que j'aimais beaucoup. Il était notre professeur à certains ici à France Inter, donc c'était Pierre Miquel. On parlera de la soupe avec lui. Ça n'a pas forcément un rapport direct avec l'environnement, quoique, mais je crois que c'est un beau clin d'œil parce que cet homme-là était doté d'un humour extrêmement fort et extrêmement certain. Et puis je vous emmènerai aussi dans le froid du Grand Nord. En fait, ce n'est pas moi qui vais vous y emmener, mais c'est Bernard Clavel, homme de Franche-Comté. Donc il nous racontera aussi un bout de ce Grand Nord que qu'il affectionne. La semaine dernière, nous étions avec Jean-Marie Pelt et nous parlions avec vous, Jean-Marie, de symboles, des sapins et des épicéas. Eh bien, c'est la suite de l'aventure et on y va. On part dans la forêt avec vous, Jean-Marie.
Alors, vous allez dans une forêt d'épicéas. Il y a par terre trois choses. Il y a énormément d'aiguilles brunes qui sèchent. Il y a des pommes qui sont tombées et il y a de la mousse et des champignons. Et alors, on se dit, mais voyons, il n'y a pas d'herbe. Il n'y a pas d'herbe. Pourquoi n'y a-t-il pas d'herbe? Le botaniste très calé va se dire, eh bien, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc, l'herbe ne pourrait pas faire sa photosynthèse parce que les plantes, comme chacun sait, ne poussent pas dans la nuit. Donc, c'est bien peut-être pour ça qu'il n'y a pas d'herbe. Mais ça n'est pas seulement pour ça. Il n'y a pas d'air parce qu'il y a trop d'aiguilles. Et les aiguilles contiennent des substances chimiques qui se répandent dans le sol et qui l'empoisonnent complètement.
On dit que ça acidifie le sol.
Oui, tout à fait, ça acidifie le sol, mais ça l'empoisonne encore plus que ça l'acidifie, de sorte que les graines d'herbe qui pourraient se trouver là, et qui d'ailleurs se trouvent là parce qu'il y en a partout, ne parviennent pas à germer. Ce sont des inhibiteurs puissants de germination. Alors, le petit champignon, lui, il n'a pas besoin de lumière pour vivre parce qu'il ne fait pas la photosynthèse, donc il peut vivre dans l'obscurité, d'où les champignons de Paris qui poussent dans des carrières. Et puis, il n'a pas non plus de graines. Il ne se reproduit pas par graines, il se reproduit par spores. Et alors, comme les spores, elles, ne sont pas inhibées au même titre que les graines, il n'est pas gêné de pousser. Alors, il y a énormément de champignons sous les forêts de sapins. Et puis, il y a aussi les mousses, donc qui sont abondantes, parce qu'elles n'ont pas de graines, elles ont des spores, et elles font la photosynthèse avec très peu de lumière. Donc, elles se trouvent bien dans un milieu très sombre. Et de surcroît, les mousses ont besoin pour se reproduire, pour que le petit spermatozoïde rejoigne l'organe femelle, d'eau, car le petit spermatozoïde est nageur, ce qui n'est pas le cas chez toutes les plantes supérieures. Alors, il est nageur, il faut de l'eau. Pour qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il pleuve, naturellement, puis pour qu'il en reste un peu, il ne faut pas que ça s'évapore trop vite. Alors, comme ici, il n'y a pas de soleil, ça ne s'évapore pas vite, l'eau reste longtemps, et les spermatozoïdes peuvent donc circuler allègrement sur la mousse pour aller rencontrer les organes femelles et faire de nouvelles petites mousses. Donc, voilà comment ça fonctionne, comment ça exclut les plantes supérieures et comment ça se plaît bien avec les plantes inférieures. Et ça se plaît surtout très très bien avec les champignons. Car les champignons forment des feutrages ou des manchons de feutrage sur les racines des épicéas. Et ces feutrages apportent à l'épicéa les substances minérales, l'eau, du sol, qui passent ainsi par les racines, comme si l'épicéa était la paille avec laquelle on sirote son jus de fruits. Et une histoire de Noël pour terminer. On a voulu implanter l'épicéa en Australie. Et on a, pour ça, fait beaucoup d'essais d'implantation. Ça ne marchait jamais. Un forestier australien commande un épicéa dans une grosse motte de terre comme sapin Noël, parce qu'il avait la nostalgie de Noël. En Australie, Noël, c'est le plein été. Il fait très, très chaud. Et c'est donc pas du tout l'ambiance que nous connaissons, nous, pour Noël. La grosse motte de terre avec l'épicéa arrive en avion en Australie et cet homme a l'idée géniale, après l'avoir décoré, d'enlever les boules, d'enlever les bougies et puis de le planter. Et il le plante et au miracle, l'épicéa pousse. Pourquoi pousse-t-il ? Ben parce que dans le sol qui a été emmené avec lui, il y a les fameux petits champignons qui forme avec l'épicéa une magnifique symbiose. On pourrait dire, allez regarder ensemble, voyez comme ils s'aiment. C'est le message de Noël.
Mieux vaut ne penser à rien qu'une pas penser du tout. Rien, c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien et puisqu'on oublie tout. Rien, c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. ça ne me vaut rien, ça ne me vaut rien de tout. Comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous. Évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Mieux vaut pleurer de rien que de rire de tout. Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur et j'avoue, je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous, tenez, que voulez-vous. Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous.
Ouais, et c'est ça qui est agréable dans le jazz, c'est qu'en permanence, eh bien, il y a ce petit sourire qui est là, ce petit plaisir. C'était donc Stacey Kent qui interprétait ces petits riens. C'est Karl Vasseur, notre programmateur, qui a choisi ce disque. Allez, on entend déjà un peu les oiseaux. C'était pendant un mois de chaud, de chaleur. C'était en été et c'était dans le Lot.
Nino Ferrer, la grande question là, qui nous préoccupe en ce moment, c'est de savoir si ce petit lapin est en fait un lapin sauvage ou un lièvre, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et je crois qu'on n'est pas prêt de le résoudre, hein, parce que quelle est la différence exactement entre le lapin de Garenne sauvage et le lièvre? Ça, personne n'est capable de le dire. Il semble qu'il a les oreilles longues, mais la queue devrait être noire, tandis qu'elle est blanche. Alors on va savoir. Quoi qu'il en soit, c'est un petit lapin en cage parce qu'il a été ramené par une chienne que nous avons, alors qu'il devait avoir 15 jours, il avait les yeux à peine commencés à s'ouvrir. Et il a été ramené tout couvert de bave, mais en parfait état, pas blessé. Alors, comme c'était l'ouverture de la chasse, on l'a pas remis dehors, bien sûr.
Oui.
Et il est là, on attend la fin de la chasse pour le relâcher.
Et vous êtes très sensible aux animaux?
Oui, j'adore les animaux. Je crois que, en y réfléchissant, les moments les plus heureux de ma vie, c'est avec les animaux que je les passe. Hein, parce que j'ai trois chiens, deux chats, un lapin, un cheval. Et finalement, je sais pas, rien de mes chiens, je passe bien 10 minutes chaque jour avec chacun d'entre eux, à jouer ou à faire un câlin, avoir une relation chaude et amicale, comme ça. Enfin, je serais très malheureux devant vivre sans avoir des chiens et des chats.
Je suis amoureux d'une petite quenon qui fait toute la journée, elle me suit sans me lâcher. Fait. Je prends le métro, elle est là derrière mon dos. Fait. Je suis dans mon bain, elle est cachée dans un coin.
Nino Agostino Arturo Mari Ferrari, dit Nino Ferrer, un homme qui est né à Gênes en Italie et qui a fait plein de choses. Il a fait de l'ethnologie, il a étudié l'histoire des religions, la préhistoire, le jazz bien sûr. Et avant de faire chanteur, il fut même archéologue. Il a été l'élève de le roi Gourand, il a fait des fouilles avec lui dans Lyon, en Espagne, déjà le sud. Et puis un jour il pose sa tribu et ses envies dans ce très beau département du Lot, un pays un pays de serres, autrement dit un pays de collines, avec une harmonie assez merveilleuse, encore assez préservée. Il s'est beaucoup bagarré parce qu'une ligne à haute tension avec ses pylônes de 60 mètres de hauteur allait quand même gentiment zébrer le paysage. Hein, voilà. Donc il y en a qui gueulent sur les éoliennes, on comprend très bien aussi, mais enfin sur les lignes à haute tension, on les entend parfois un petit peu moins. Et donc cet homme-là a décidé, on le sait, un jour d'arrêter de vivre, un jour de plein soleil, au mois d'août 98. J'ai rencontré quelques années avant, donc dans une route qui joue à saut de colline pour arriver chez lui, c'est celle du Quercy Blanc, celle du calcaire que vous avez à fleur de terre. Le clocher de Saint-Cyprien est à côté et le désormais culte village de Montcuq hein, est à 10 bornes, juste là, presque à vol d'oiseau. Et Philippe Barbeau disait très très bien un jour dans Télérama que cette rencontre avec un Génois sans gêne, eh bien cet homme-là réconciliait Ray Charles et Jacques Dutronc, James Brown et Bobby Lapointe. On se promène avec lui dans son Lot.
Nous sommes dans le Quercy Blanc. 25 km de Cahors, dans une région qui s'appelle anciennement la région des Vaux, c'est-à-dire des vallées. C'est une région où il y a des petites collines, qui doivent avoir une centaine de mètres, 150 mètres de haut, pas plus, disons. Très douce comme forme, et des vallées, ça change sans arrêt, c'est très très varié et très joli. Hein. Pastel comme couleur, un peu encamailleux, c'est vraiment très très beau, j'adore ce pays, et en plus les gens ils sont sympathiques je trouve. Ils sont chaleureux, sans être trop exubérants, ils sont vraiment très sympathiques je trouve, je suis très très heureux d'être dans ce pays-ci.
Alors, comment s'est fait ce choix sur cette région du Quercy, Nino? Parce que...
Ah oui, je vous ai dit, c'est le hasard, hein, Quand j'étais à ce château de Blanat, là, c'est le hasard, et moi j'ai visité plein de maisons. Moi d'ailleurs j'étais parti plutôt sur l'idée d'un petit manoir genre Périgourdin avec un pigeonnier, vous voyez, avec un toit un peu en pagode, avec des tuiles plates. Hein. C'était ce genre de maison à laquelle je pensais. Et puis je me suis trouvé dans cette région-ci, au contraire, où il y a beaucoup de maisons qui viennent tout droit de l'occupation romaine d'il y a 2000 ans, hein, qui ont des proportions toujours semblables. Grosse maison carrée avec un toit pyramide très très harmonieux vraiment et couverte en tuiles canal avec plusieurs rentes génoises en général. Mais je me sens pas dépaysé ici par rapport à ma ville natale parce que bien que je vive maintenant complètement en France depuis longtemps, enfin je suis quand même resté italien, j'ai le cœur italien, enfin j'aime très fort l'Italie.
Vous y retournez ?
De temps en temps, rarement mais de temps en temps. Alors je suis fier de voir que mes ancêtres les Génois ont laissé quelque chose de très important ici dans le Quercy, parce que la génoise c'est un bel ornement hein, pour une maison. Ça fait une espèce de frise dentelée qui est vraiment très très belle.
Voilà. Qu'est-ce qui vous manquait le plus quand vous bossiez donc en région parisienne dans ce show business et que vous avez trouvé ici?
Juste d'avoir de la place comme ça, de l'immensité autour de soi, des animaux. Bruit de nature. Moi, j'ai toujours eu envie de ça. Moi je suis un solitaire, même si j'ai besoin de tribus autour de moi et puis de contact hein, avec les autres. J'ai besoin aussi d'être dans un désert. D'aller, c'est court.
C'est vous qui avez bossé dans cette maison?
Oui, j'ai fait pas mal de travaux. Elle était en en terre battue quand on est arrivé, c'est-à-dire qu'il y avait un roncier qui avait poussé dedans. C'était un marécage dès qu'il pleuvait. Alors j'ai réussi à trouver des bouts de dallage comme ça et on a dallé à l'ancienne sur du sable.
Ouais, moi je me suis toujours intéressé aux maisons, beaucoup. J'aime beaucoup faire des travaux dans les maisons et beaucoup les faire moi-même aussi. Là, ça me passionne complètement.
Vous aimez la pierre ?
Beaucoup, oui.
Il me fait rire ce frigo parce qu'effectivement il est peint, il est rouge à la base et toute la face antérieure est peinte avec des formes, des têtes, des animaux, c'est très naïf, très colorié, à la laque, c'est très joli le résultat, c'est ma femme et des amis qui l'ont fait. Mais ce frigo est un symbole pour moi parce que je me rends compte que finalement j'arrive à 50 ans passés maintenant, et que j'ai quand même une longue carrière derrière moi, et une carrière souvent de succès aussi, donc synonyme de réussite et d'argent dans l'esprit des gens, etc. Eh bien, ce réfrigérateur me fait constater que je n'ai jamais acheté un réfrigérateur neuf de ma vie. Ce qui veut dire que j'ai toujours eu des emmerdements d'argent. Et tous les frigos qui ont défilé chez moi, c'était tous des vieux frigos que mes copains jetaient à la poubelle. Et celui-ci ne fait pas exception d'ailleurs. Je voulais, déjà quand j'étais à Paris, je n'habitais pas Paris même, j'habitais une maison au hameau de la Jonchère qui est à 10 km de l'Étoile, disons. C'est entre Paris et Saint-Germain, c'est vraiment la très proche banlieue. Mais c'était un endroit merveilleux avec un jardin qui était disposé de telle sorte qu'on avait l'impression d'être très loin d'une ville. On entendait le bruit au loin. Mais quand même, j'étouffais un peu dans ce jardin qui ne faisait que 3000 mètres. Et j'avais envie de campagne. Bon, c'est quand même pas évident de venir s'installer à 700 km de Paris, hein, je dois dire. À tous les niveaux, pour continuer à travailler, c'est pas vraiment facile. Donc, je suis pas venu ici par hasard, ça c'est un fait.
Nous sommes en plein 15e siècle ici.
Oui, oui, cette maison date de 1430. Oui. Elle a été retapée en 1730. On peut pas savoir exactement comment elle était avant, mais enfin... Elle est là depuis très longtemps, depuis 500 ans, et c'est une maison très... simple et paisible, c'est ce qu'on ressent essentiellement dans cette maison. Il n'y a pas eu de crime, de viol, d'incendie abominable, des choses horribles dans l'Antiquité. Il y a eu des événements assez paisibles comme le fait qu'une vieille femme de 80 ans y meurt après y avoir passé sa vie entière entourée de ses descendants, etc. C'est une maison très très paisible et simple, tout en étant d'une grande noblesse.
Ce Canterbre noir, ce ciel plein de fumée, devant ma fenêtre, aux vitres embuées, ce feu qui brûle et craque, ses reflets sur ses murs. Parfum de ses fleurs sur ses meubles obscurs. Et le bruit de ses gouttes de pluie qui claquent sur les toits la nuit.
En fait, vous venez un peu ici pour retrouver une solitude, mais ce n'est pas une solitude simple, c'est une solitude peuplée. C'est autrement dit, vous n'êtes pas seul ici, vous vivez quand même avec des gens régulièrement.
Ah, d'abord, j'ai toute ma tribu, hein, parce qu'il y a ma femme, mes enfants, ma mère. Il y a aussi des gens avec qui je travaille, puisque je fais mon travail ici. J'ai du matériel d'enregistrement, j'ai fait plusieurs albums. Non, ça bouge beaucoup. Et puis, j'ai noué des relations avec des gens du pays aussi, j'ai des amis dans le pays. Non, ce n'est pas du tout une retraite au bout du monde, ce n'est pas du tout ça.
Et vous vous occupez un peu de vos activités, je dirais, de gentleman farmer, ou bien est-ce que vous déléguez ça à des personnes du coin ?
Au début, quand je me suis installé ici, j'avais très envie de faire une expérience avec des chevaux. J'avais désiré ça toute ma vie et je m'y suis lancé. J'ai fait de l'élevage de chevaux pendant 5 ans à peu près. J'ai eu jusqu'à 11 chevaux. Ici, j'ai eu des naissances, des morts, des maladies, des accidents, des victoires, des concours, des premiers prix, des ratages. Je me suis bien amusé, ça a été génial, mais j'avais pas envie de faire ça toute ma vie. Alors, au bout de 5 ans, bon ben, j'ai un peu ralenti parce que je faisais la plupart des choses moi-même et que j'ai pas beaucoup de temps non plus. À part ça, non, je bricole, je fais de la menuiserie, de la plomberie, du plâtre, de la charpente, mais je fais surtout de la musique.
Ils sont assis comme des veaux parmi les papiers gras. De frites et de coca. Ils écoutent la musique, comme on regarde passer les trains. De toute façon, le son est merdique, la sono c'est les gars du coin.
Optimiste, hein. Je le vois plutôt noir, pas très gai, parce que je vois pas comment ça peut évoluer autrement que suivant deux ou trois schémas principaux. Alors ça peut se passer mal, par exemple, donc ça peut, le pouvoir peut échapper à quelques présidents ou autres d'un petit pays sous-développé qui mettent le feu aux poudres. Bon, ça peut arriver, hein. Ça échappe le pouvoir aux mains des hommes, donc ça peut se terminer catastrophiquement avec l'hiver nucléaire et ainsi de suite. Bon, il peut très bien aussi ne pas se passer comme ça, mais alors dans ce cas, je vois difficilement que ça aille ailleurs, vers de plus en plus de monde, de plus en plus de villes bétonnées violentes, et de plus en plus de fiches et de pouvoirs de l'État sur l'individu, et d'impossibilité pour toute déviation. Parce que c'est évident qu'une société extrêmement compliquée, une société de fourmis, peut absolument pas se permettre de tolérer une fourmi mutante qui dérange l'ensemble. Et c'est ce que nous sommes en train de devenir. Alors je vois pas que ce soit tellement plus gai que la nucléarisation. Mais vous me parliez d'atome tout à l'heure. Ouais, l'atome, ça me fait toujours rire. J'entends le mot atome à cause d'un graffiti que j'ai vu à Montauban. Sur un mur de Montauban, il y a un gros bombage depuis des années. Très très drôle, et qui dit « Joyeux Golfèche et bon atome ». Parce que nous sommes près de la centrale de Golfèche, ici. Il y en a un autre graffiti, près de Cahors, alors, qui me fait rire énormément aussi. C'est sur un mur près du dépôt d'ordures à la sortie de Cahors, pour venir ici, sur lequel il y a écrit en grosses lettres noires « Volem rien foutre al pays ». Je crois que ce qui m'ennuierait le plus, c'est de ne pas pouvoir être libre de mon temps. Je pense que ça, pour moi, c'est un destin que j'aurais pas pu envisager, d'être obligé de travailler à heure fixe tous les jours. J'ai toujours eu besoin de bouger et de choisir. Je crois que j'aurais pu être, par exemple, paysan, volontiers. Je trouve que les paysans, je les appelle toujours les paysans parce que je trouve que c'est un beau mot, paysan. J'aime pas beaucoup les mots qu'on utilise aujourd'hui. Comme appeler des aveugles, des non-voyants, ou des sourds, des malentendants, des paysans, des agriculteurs. Moi, je trouve que le mot paysan, c'est un beau mot. Les gens qui vivent du pays, et quoi qu'il en soit, ces gens-là, je trouve qu'ils ont une belle vie, même si c'est dur. Hein. Nombre de mes voisins qui sont agriculteurs et que j'aime bien, que j'estime beaucoup.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli.
temps dure longtemps. Et la vie sûrement. Plus d'un million d'années. Qui se roule sur la pelouse. Y'a plein de chiens. Y'a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement plus d'un million d'années et toujours en été.
Toujours, évidemment, cette chanson. Ne me dites pas que vous n'avez pas craqué un jour pour le Sud. On va changer de climat, donc après le Sud, vous l'avez bien compris, une ambiance un peu de froid. Et là aussi, mixé par Anne Wendfeld et Jean-Philippe Jeanne, eh bien, on va aller dans un autre royaume qui est celui du Nord.
C'est comme les fleuves, hein, ça, quand, moi j'ai le Rhône qui me coule dans le sang, je sais que je ne m'en débarrasserai jamais. Enfin, le Rhône et d'autres rivières, d'autres fleuves.
Et le Nord, c'est la même chose. C'est aussi tenace qu'un fleuve, c'est aussi envahissant. C'est quelque chose qui vous empoigne pour des raisons qu'on a du mal à définir, parce que c'est quand même pas... la beauté d'un fleuve, tout ça, on peut en discuter. Là, c'est une grande beauté aussi, mais c'est une beauté tellement dure parfois. Vous avez parlé de moins 30 tout à l'heure. Moi, j'ai eu moins 65 quand j'étais dans le Nord. Donc, vous voyez que c'est pas de tout repos. Mais il y a d'abord dans la nature quelque chose d'extrêmement voûtant, et dans les hommes qui vivent dans cette nature, parmi eux j'ai découvert des êtres extraordinaires.
Envie de retrouver aujourd'hui ce conteur formidable de l'être humain et aussi de nature qu'est Bernard Clavel. Donc un artisan, je crois que c'est vraiment le mot qui lui convient le mieux, artisan des lettres, un homme qui a toujours fui les paillettes, les honneurs. Là, il parlait du Rhône et c'est vrai que ce fleuve lui doit beaucoup, il doit une partie de sa vie, il lui doit une partie de son écriture, de sa peinture. Et cet homme qui est né en 1923 à Lons-Saunier en Franche-Comté, et en fait a aussi l'hiver chevillé au corps parce que c'est sa saison préférée. Alors, il doit cela en fait à son enfance, à la toute petite maison où on racontait des histoires avec son père boulanger. C'était la pauvreté, il n'y avait pas de livres, mais il y avait de la parole, il y avait de l'imaginaire qui circulait. Et donc ça a évidemment fortement marqué ces odeurs d'enfance, ces couleurs d'enfance, Bernard Clavel, avec une écriture sociale que l'on connaît, donc un homme qui cogne, qui rudoie, qui empoigne le réel, une écriture qui monte au front et qui tape sur l'injustice et qui aussi donc, se nourrit véritablement de la nature. Alors il aime le froid, les grands espaces. Cet homme est parti en Irlande, dans le Connemara, et puis aussi tout à fait régulièrement dans le Québec, dans le Canada, qu'il appréciait pour la qualité de son silence. On se souvient de sa saga, donc le Royaume du Nord avec Arikana, L'Or de la Terre à Maroc. Et là, on va partir non loin des Grands Lacs. On va être dans la baie de James, c'est un peu au-delà, et rencontrer donc une famille d'Indiens qu'il a rencontré lui-même, les Indiens Cris. On est donc dans le Grand Nord québécois avec ses trappeurs, à une époque tout à fait contemporaine, parce que les enfants se retrouvent face à la télévision et sur un scooter des neiges, mais on sent bien que les parents refusent en partie cette civilisation qui casse leurs rapports sociaux.
Il y en a, et je pense que c'est la majorité encore parmi les anciens, qui ont la taïga tellement dans la peau que vivre assis dans une maison carrée à se chauffer au coin d'un radiateur électrique en regardant une télévision, pour eux c'est la mort, quoi. Alors il arrive toujours un moment, ils le font un petit peu comme ça, puis arrive un moment où l'appel de la forêt, si j'ose dire, j'ai employé ce titre, est plus fort que tout le reste, et ils partent trapper, et ils essaient de retrouver la vie qu'ils avaient avant.
Et puis Bernard Clavel, l'attelage, l'orgueil des Indiens.
Ah, c'était, oui, pour eux, moi j'ai connu des vieux Indiens, enfin vieux, ils avaient 50 ans à ce moment-là, qui parlaient de leur attelage de chien, vraiment comme d'une femme dont ils auraient été amoureux. Mmh. Enfin, c'était... Et on peut comprendre ça, on peut difficilement comprendre que quelqu'un parle comme ça d'une voiture ou d'une moto, mais que quelqu'un parle comme ça d'un attelage. Parce qu'un attelage, c'est vivant, pas seulement parce que ça bouge au moment où on le mène et où ça réagit autrement qu'un moteur, mais c'est vivant aussi parce que ça n'est pas toujours le même.
Oui.
Il y a toujours un chien qui meurt, il faut le remplacer, tout ça. Et chacun, il se souvenait, « Oh, dis donc, quand j'avais ce chien-là, comme chien de tête, c'était extraordinaire. » Tu sais, il me parlait de ça, vraiment.
La grande fierté, c'est lorsqu'il y a un croisement entre une femelle malamute et puis un loup. Parfois, on lâche la femelle.
Oui, ça, c'est... Enfin... Moi, j'ai connu un vieux trappeur qui n'était pas indien, d'ailleurs, qui avait un très bel attelage, et dans lequel il m'a affirmé, je veux bien le croire parce qu'ils en avaient bien l'allure, qu'il y avait deux chiens qui venaient de croisements comme ça. C'était soit des malamutes, soit des huskies, une femelle qui était en chaleur. Il la lâchait dans la forêt et il savait qu'elle avait une chance de revenir couverte par un loup. Ça fait évidemment des chiens qui sont très beaux, mais qui, quelquefois, risquent d'être un petit peu féroces.
Et puis il y a d'autres animaux, alors ça on va sûrement en parler tout de suite. Évidemment, il y a l'ours, l'ours qui est le frère de l'Indien, qui est un peu le grand-père,
c'est
effectivement,
le grand-père
de ces Indiens.
C'est le grand-père, oui.
Et que l'on respecte. C'est-à-dire que lorsque l'on tue l'ours, eh bien, on le respecte, on le remercie de donner sa viande.
Voilà, c'est ça. Il y a tout un rite autour de la chasse à l'ours qui est quelque chose de sacré. On ne tuera pas, on ne va pas aller comme ça dans la taïga, on voit un ours, paf, on le tue, et puis on le dépouille, on s'en va sans rien dire. Ce n'est pas vrai, ça. Il y a tout un rite à respecter. Et je ne suis pas l'ami des chasseurs, mais quand ce sont des gens comme les Indiens qui chassent pour survivre, qui chassent parce qu'ils en ont besoin pour vivre,
qui prélèvent ce qu'il faut,
c'est autre chose, c'est leur métier. Et ils ne tueront jamais, jamais une bête s'ils n'en ont pas besoin.
Oui. Alors il y a cet animal qui porte le titre de ce roman, le carcajou, oui, que je ne connaissais pas, qui fait partie...
Si, vous le connaissez, mais il ne s'appelle pas comme ça en Europe, quoi. C'est le glouton.
Ah, c'est le glouton.
C'est le glouton.
D'accord.
Oui, oui.
Donc
ça relève mais je crois qu'il n'y en a plus en Europe, enfin, ou s'il y en a peut-être dans les pays nordiques, je ne sais pas, mais en tout cas, on n'en voit pas, quoi. Et je connais des trappeurs de 80 ans qui n'en ont jamais vu vivant, mais qui ont eu affaire à lui, parce que c'est un animal tellement rusé, tellement vorace et tellement féroce, qu'il ne se déplace généralement que la nuit, s'il y a un risque. Et il ne se déplace que pour trouver sa nourriture. Seulement, les trappeurs en ont une peur bleue, parce que s'ils ont tendu des lignes de trappe, vous savez que les pièges sont tendus en ligne comme ça, et ils peuvent tendre 15, 20, 30 pièges comme ça. Alors on met une amorce au piège, bien sûr. Lui réussit à toujours prendre les amorces. Il peut vider toute la ligne de trappe.
Il ne sera pas prendre.
Il ne se fera jamais prendre. Il y a des pièges qu'on retrouve fermés, ouais, mais il ne s'est pas fait prendre. Comment fait-il ? Personne ne le sait, parce qu'on n'a jamais pu le filmer en train de faire ça. Mm-hmm. Et quand il détruit quelque chose, par exemple une réserve de nourriture, parce qu'il s'attaque aux réserves de nourriture aussi, s'il ne peut pas tout emporter ou tout manger, il l'imprègne de son odeur horrible, parce qu'il paraît que ça...
C'est pire que le putois.
Ah oui, il paraît que c'est épouvantable. Et on ne peut plus rien prendre. Et j'ai connu un trappeur dont la tente a été ravagée par un carcajou. Et il m'a dit, j'ai eu une chance inouïe parce que j'étais parti avec mon canot pêché.
Donc il lui restait le canot.
Sinon, il m'aurait détruit mon canot aussi. C'est fou.
D'ailleurs, vous le dites, c'est le diable. En fait,
ah, c'est le diable. Pour les Indiens, c'est le diable, oui. Dès qu'on leur parle du carcajou. D'ailleurs, ils évitent de prononcer le mot.
Bernard Clavel, qui vous a enseigné en fait la trappe ? Vous avez suivi qui pour bien connaître comme ça ? Là, au départ, il y a un boulot de journaliste et puis après, il y a le travail du romancier. Mais vous avez suivi tous ces hommes ?
Non, moi, je n'ai jamais trappé moi-même parce que je n'ai pas l'âme d'un chasseur, je sais pas. Mais je suis allé souvent à la trappe avec des trappeurs professionnels, en fait, des gens qui ne font que ça. Et j'ai un très bon ami qui est trappeur près d'Amos et qui m'a très souvent emmené en forêt avec lui. Et qui, lui, alors, est un passionné d'animaux. Ça peut paraître extraordinaire, mais ce type-là a toujours chez lui, j'ai d'ailleurs des photos extraordinaires, il avait à un moment donné un orignal apprivoisé chez lui, il avait des ours apprivoisés, il avait la plus belle bête que j'ai vue chez lui, c'était un harfang des neiges. Vous savez, le harfang des neiges, c'est le plus beau rapace qu'on puisse imaginer. Et il avait trouvé cet oiseau blessé, il l'a soigné, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu vas en faire maintenant ? Ah, il m'a dit, mais tu vois, je vais attendre le printemps, et quand le dégel va commencer, je vais le lâcher. Il est bien soigné, maintenant bien nourri, tout, il est costaud, et il va partir vers le nord, parce que c'est le printemps qui vient, il ira vers le nord. Si je le lâchais maintenant, il irait vers le sud, il se ferait tuer.
Thank you. CO2, mon amour, Denis Chesson.
Bien, c'était Kate Power qui chantait Naked, et donc malgré le climat, qui restait parfaitement dénudé. Nous allons prendre maintenant un grand bol de soupe, vous allez comprendre.
Excusez-moi, est-ce qu'il y a moyen de manger sa soupe sans faire slurp?
Ah ouais, mais ça brûle.
Alors pourquoi on fait slurp, à votre avis, en mangeant sa soupe?
C'est pour refroidir, c'est tout. On la passe dans le palais, comme ça. Et puis comme ça, on prend de l'air, un peu moins chaude que le truc, et puis ça refroidit la soupe, quoi, quand elle est trop chaude. C'est pas plus compliqué que ça.
Parce qu'il y a des gens qui arrivent à manger, mais sans faire slurp.
Ouais, mais ils savent pas. Maintenant, il y a aussi un truc, hein, je sais pas, je dis ça, mais... Je pense aussi, le fait d'oxygéner la soupe, c'est comme le vin, quoi. Faut que ça prenne. Ah oui, c'est meilleur.
Eh bien oui, après le froid du Grand Nord, une bonne soupe donc pour se réchauffer. Avec, dans quelques instants, un universitaire, un homme qui a popularisé l'histoire dans les médias, donc qui fut décrié Pierre Miquel. Pierre Miquel, on l'a connu comme spécialiste de la guerre de 14-18, mais l'homme avait trop de curiosité et de gourmandise donc pour s'arrêter là. L'humain le touchait plus que les héros de nos traditions nationales, parce que Pierre avait le goût des autres, des humbles. D'ailleurs, on se souvient de ce titre, hein, sur France Inter, « Les oubliés de l'histoire ». Et donc cet homme était un historien de la vie des gens, sans distinction de classe, et qui défendait un message civique et républicain. Je voulais un petit peu lui rendre hommage, parce qu'avec Patricia Martin, entre autres, il a été notre professeur à la Sorbonne, avec des repères nets dans un monde qui était embrouillé, explications toujours claires. Et puis un jour, je lui ai dit, j'ai envie de faire un sujet sur la soupe, et j'ai besoin d'une caution. Alors il m'a dit, écoute, t'as raison, ça touche à l'essentiel, la soupe, et l'estomac nourri de choses simples, on pense mieux le compliqué du monde.
Bah écoutez, j'aime bien la soupe comme tous les gens qui ont été élevés à la campagne. Mmh. Vous savez, quand j'étais gosse, je suis né en 1930, quand j'étais gosse, le soir, la soupe était là depuis 2 heures sur la cuisinière de ma grand-mère. Vous savez, une vieille cuisinière en fonte noire avec des petits robinets en cuivre. Et là, je veux dire que ça faisait rien que la soupe cuise 2 heures ou 3 heures ou 10 heures. Mmh. Parce que de toute façon, la cuisinière, elle marchait. C'est ça le problème, c'était pas une dépense supplémentaire de faire de la soupe. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, faire de la soupe, c'est un problème. Parce qu'il faut avoir le temps, il faut dépenser du gaz, le gaz est de plus en plus cher. Il faut mettre des choses dans la soupière, enfin on n'en sort pas. Puis maintenant, vous avez des trucs automatiques, des choses qui rendent la soupe totalement immangeable. Alors qu'à l'époque, la soupe cuit et cuit très longtemps.
Moi, je sais pas, mais manger la soupe sans faire slurp, c'est moins bon. Puis ça brûle, hein.
Il manque quelque chose.
Ah ouais, il manque quelque chose.
Ben, vous savez, dans le Bas-Quercy, dans l'Allier, enfin les pays que je connais un peu, on fait des soupes différentes selon les ressources locales. La soupe, c'est évidemment ce qu'on mange, ce qu'on a à manger dans le coin. C'est-à-dire qu'il y a des pays où on fait la soupe aux choux. Bon, le pays du centre, par exemple, le Bourbonnais, le pays de ma mère, de mes grands-parents maternels. Alors, la soupe aux choux, ça demande un certain condiment, et le condiment, c'est lard, essentiellement, qui donne un peu de graisse, un peu de matière grasse dans l'alimentation. On fait également, dans ces pays d'élevage, une soupe de lait. Les soupes de lait, ça existe, avec les croûtons qu'on récupère tous les jours et qu'on met dans le lait. On appelle ça la mitonnée. On y ajoute un peu de fromage et la cuillère tient droite dans une mitonnée bien faite. Et alors, vous parlez du Quercy, alors là, c'est la soupe au vin, la soupe où on ajoute du vin.
Vous la faites vous-même ou c'est votre épouse?
Oh non, la soupe, c'est les femmes. J'ai jamais vu un homme préparer la soupe chez nous.
Vous mettez jamais la main à la soupe?
Ah non, jamais. Ça, c'est pas un travail d'homme. Hein.
Where did you learn to eat soup that way?
Oh, guess it just comes natural.
Anybody can do it
with practice.
Yes, but you don't understand. This is the way gentlemen eat soup.
Gentlemen?
Now watch. Spoon in the hand, bending the wrist, into the bowl, and out with a twist.
Spoon in the hand, bending the wrist, into the bowl, and out with a twist.
That's fine. That's perfect.
Perfect?
Et là, vous parlez de vin. Vous faisiez Chabrol vous-même?
Oui, enfin, moi, sinon moi-même, du moins parce que j'étais petit. J'ai vu mon père et mon grand-père le faire couramment. Enfin, c'était une chose qu'ils faisaient tous les jours.
Vous faites avaler de travers. Je rajoute du poivre avec, toujours.
Des origines historiques, ben, vous savez, la soupe est liée à l'histoire des civilisations, parce que dès qu'on connaît le feu, bon, et qu'on connaît la marmite, eh ben, on fait de la soupe. Pourquoi? Parce que rarement un pays est tellement pauvre que les gens ne peuvent pas se faire cuire le soir une soupe. Ça ne demande qu'un peu de bois, de l'eau et des légumes. Et la soupe, c'est essentiellement une utilisation des légumes. Bon, car vous n'avez pas de soupe avec des matières grasses, beaucoup. On a justement, la soupe est faite pour compenser le manque de matières grasses. Si la soupe a une telle importance dans l'alimentation des anciens temps, c'est parce qu'il n'y a que la soupe. Alors, il y a des pays, les pays céréaliers, où vous avez des galettes, où vous avez une alimentation avec des... non pas du pain, parce que le pain est un luxe incroyable, mais le brouet de Sparte, les galettes macédoniennes. Pourquoi? Parce que ces pays sont des pays où il n'y a pas, où il y a peu de légumes, il y a peu de production de légumes. Alors, on utilise les récoltes de céréales. Et avec les céréales qu'on entretient d'une année sur l'autre dans les silos, eh bien, on fait une nourriture qui n'a rien à voir avec la nourriture de chez nous, qui est essentiellement à base de soupe. Et la soupe, c'est une nourriture paysanne. On fait la soupe dans les pays où il y a des paysans.
Oh, elle est carrément froide maintenant.
Quand vous étiez soldat, vous mangez de la soupe aussi?
Ah oui, ben, tous les... Oui. Ouais, mais enfin, la soupe militaire, hein, c'est pas la soupe à Simone quand même. Hein. Ah, parce que Simone, elle fait bien la soupe. Hein. Mm-hmm. Alors, si je l'ai épousée, c'est un peu pour ça aussi.
With a spoon, with a bowl. With the music in your soul, you can make things hum with the zum 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 of the music in your soul.
Et oui, c'est une petite fantaisie gustative de fin d'année. Vous avez remarqué, on n'a pas eu besoin de mettre le disque de Brel dedans. Mais pas du tout, c'était pas du tout nécessaire. Et donc, en plus d'une belle et profonde humanité, Pierre Miquel, qui était ce fils de chapelier de l'Allier, était, vous l'avez compris, aussi doté d'un très très bel humour. Pour le plaisir, j'ai trois agendas 2008 sous les yeux qui sont tous très très bien faits. Nous avons celui d'Emmanuel Figueras et de Christelle Leca, qui est l'agenda 2008 de la faune et de la flore aux éditions de la Chaux et Niestlé. Celui de Terre Sauvage et des Parcs Nationaux, l'agenda 2008, donc évidemment avec beaucoup de photos de Parcs Nationaux aux éditions Milan. Et puis l'agenda Nature 2008 de Dominique Mention chez Ouest France qu'on a reçu tout à l'heure. C'est vraiment très très bien. Un grand merci à Antoine Viossa, à Stéphanie Coulon et à Jean-Philippe Jeanne pour ses différents mixages des reportages. À Jean-Christophe Pinaza, à Céline Bézy, à Anne Venfel qui a réalisé donc cette émission. Karl Vasseur qui a choisi les disques, Anne Gouzon qui nous a proposé différents sites. Possibilité pour vous de réécouter pendant 4 semaines l'émission et de la podcaster pendant une semaine. Denis Chessou, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouvera l'année prochaine avec plaisir avec, entre autres, le chanteur Di Mouvrini, Jean-François Bernardini. Bonne fête à tous et dans quelques instants, Mathias Degel, le zapping de France Inter. Il est 15h.